Radio Okapi. À la présentation du journal, Grâce Hamzati.
À la une de l'actualité, le mandat de la MONUSCO vient d'être renouvelé d'un an. La résolution y afférente a été votée à l'unanimité cet après-midi par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Au cours de cette plénière, la représentante des États-Unis d'Amérique a exprimé son inquiétude face aux avancées du M23 soutenues par les forces rwandaises dans le Nord Kivu et la conquête de nouveaux territoires. À suivre dans quelques instants. Près de 20 morts et des blessés. Bilan d'un accident de circulation cette semaine dans les territoires de Mitwaba, dans les Haut-Katanga. Le camion avec à son bord passagers et marchandises a fait un tonneau. La surcharge ainsi que l'ivresse au volant serait à la base de ces drames. L'invité de la rédaction ce soir est le coordonnateur du programme de santé de la reproduction dans la province de l'Omami. Le docteur Robert Nsakamalangu parle de son livre intitulé « Qu'aucune femme ne meurt plus en donnant la vie ». Dans cet ouvrage, il propose des pistes de solutions pour réduire la mortalité maternelle lors des accouchements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle pour une année le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, à travers la résolution 2765. Ce texte, proposé par la France et la Sierra Leone, a été voté à l'unanimité par les membres de ce conseil lors de leur réunion tenue ce vendredi à New York aux États-Unis d'Amérique. Blaise Ndongala Mayanda revient sur les temps forts de cette plénière.
Dans sa prise de parole, la Mozambique a affirmé avoir voté cette résolution pour manifester son attachement au peuple congolais en ce moment où les efforts diplomatiques sont menés dans la région pour restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Maputo a cependant salué la mise en œuvre de ces textes et encouragé la poursuite de la collaboration entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Ces pays d'Afrique australe a également souligné l'importance de la redynamisation du processus de Nairobi pour résoudre une fois pour toutes la question des groupes armés qui écument la partie est de la RDC. Le Royaume-Uni a invité les parties en conflit à ne pas faire obstacle à la mission onusienne. La Chine, elle, a indiqué avoir toujours défendu le rôle que joue la MONUSCO pour le retour de la paix en RDC. Elle a à cette occasion encourager Kinshasa et Kigali à poursuivre les négociations sous les houlettes de Luanda. Pour leur part, la France et les Sierra Leone ont tour à tour salué le vote de cette résolution et disent apporter leur soutien au processus de Luanda. Il faut noter que la résolution 2765 est votée 5 jours seulement après l'annulation du sommet tripartite RDC-Rwanda-Angola qui devait juguler la crise dans la partie est de la RDC.
Merci à vous, Blaise Ndongala Mayanda. En réaction, les États-Unis d'Amérique se félicitent d'avoir voté pour la résolution 2765, renouvelant pour une année le mandat de la MONUSCO. Cependant, les USA se disent déçus du fait que plusieurs membres du Conseil de sécurité n'ont pas voulu inclure des formulations décrivant clairement le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. La représentante des États-Unis l'a dit ce vendredi à New York au cours de la réunion du Conseil de sécurité. Elle s'est dit inquiète à cause des avancées du M23 soutenue par les forces rwandaises dans le Nord Kivu et la conquête des nouveaux territoires. On écoute la représentante des États-Unis d'Amérique dans ses propos recueillis par Alain Rungmouchins.
En effet, nous devons prendre acte de la situation sur le terrain. En effet, en refusant d'appeler un chat, nous ne rendons pas service à la MONUSCO et au service au travers de l'humanitaire qui sont menacés par le brouillage du signal GPS, le déploiement d'équipements très sophistiqués dans l'est de la RDC par le Rwanda. En outre, nous ne rendons pas service également aux milliers de civils qui sont menacés par ces activités. Chers collègues, le monde attend du Conseil de sécurité de décrire les choses telles qu'elles sont, notamment lorsque ces éléments sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes profondément inquiets par le signalement que nous avons reçu cette semaine d'avancée du M23 dans le Nord Kivu et la conquête de nouveaux territoires est soutenue par les forces de défense rwandaises. Nous appelons toutes les parties au titre du processus de Luanda de continuer à travailler à la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Nous regrettons que n'ait pas pu avoir lieu le sommet triangulaire sur la sécurité le 15 décembre. Ceci est une occasion ratée. Nous exhortons les dirigeants de la RDC du Rwanda à se réunir à nouveau sous la houlette de l'Ouganda.
Revenons ici au pays. Les diverses communautés de la province de la Tchopo, en général et spécialement les Mbole et les Lingola, enterrent la hache de guerre. En effet, ils ont signé hier un acte d'engagement au terme des travaux du Forum pour la paix, la réconciliation et le développement de la province de la Tshopo. Ces assises, initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ont été organisées du 17 au 19 décembre courant par le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en collaboration avec les Fonarev. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, coutumières, religieuses ainsi que des organisations de la société civile. Un reportage de Jacques Mukongole.
Nous nous engageons dans la voie de la paix à sensibiliser dès aujourd'hui nos communautés respectives à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique.
Sébastien Yemikanga Wakanga et Gilbert Sabouni, respectivement représentants des communautés Mbole et Lengola, ont signé cet acte d'engagement devant l'assistance. Ils se sont serrés la main avant de s'embrasser. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, donne le sens de ce document.
Cet accord constitue un document de rappel et de prise de conscience. Il matérialise l'objectif principal de vouloir vivre ensemble.
Plusieurs résolutions ont été prises par les quatre commissions instituées par ce forum. Le facilitateur de la commission paix et sécurité, Patrick Matata, en donne quelques-unes.
Les communautés ont pris l'engagement de préparer une cérémonie de réconciliation d'ici janvier 2025. Elles ont demandé au gouvernement de prendre en charge pendant ce temps les déplacés qui vivent dans les camps.
Réagissant à cet accord, le député provincial Dr Aimé Eyane ne se fait pas de doute. Les deux communautés ont effectivement fumé le calumet de la paix.
En tout cas, les gens se sont parlé ouvertement, les gens se sont défoulés et je crois qu'on peut avoir ce sentiment-là que les gens ne sont plus intéressés par la guerre.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Cette information qui vient de nous parvenir, Aristide Kaindonguru est désigné juge à la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès extraordinaire ce vendredi. Ce, en remplacement du juge Wassen Dansongo Corneille, arrivé fin mandat après 9 ans de service. Direction Bukavu Sud Kivu, les enfants en rupture familiale, dit Maïbobo, tracasse la population pendant les heures nocturnes. Dans son rapport, le cadre des concertations de la société civile affirme que les passants se font ravir de l'argent, des téléphones, des sacs pour dames et tout autre bien que ces enfants retrouvent sur leurs victimes. À partir de 20h, ces enfants prennent possession des rues les plus fréquentées par la population. À ces jours, 21 cas de victimes ont été monitorés dans les trois communes de la ville de Bukavu. Ces reggae d'insécurité orchestrés par les mineurs poussent le cadre des concertations de la société civile à solliciter à la police de mettre en place des points chauds mixtes PNC-FARDC pour permettre à la population de se mouvoir librement la nuit pendant cette période de festivités de fin d'année. Hippocrate Maroumé est au micro de Jean Kassami.
L'agressivité, les menaces, pourquoi pas même des vols s'accentuent dans les rues, dans la ville de Bukavu, même dans les chemins des avenues. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut que les commandements ville puissent prendre des mesures. Nous venons de monitorer au moins 21 cas de personnes qui ont été agressées par les enfants de la rue. Et dans les cas de blessés, nous retrouvons des acteurs de la société civile de Bagira, ce qui inquiète davantage. Voilà pourquoi nous demandons à la police de bien jouer son rôle, surtout dans ces contextes. Il serait important qu'on puisse installer les points chauds qui pourront servir de relais parce qu'à tout le temps qu'on sera en train d'agresser, ou bien il y a des alertes des cas de suspects, la population ou bien les victimes peuvent se référer en alertant les points chauds, les policiers qui est là, à qui nous recommandons qu'ils coanime ensemble avec les FARDC pour mettre fin à la situation sécuritaire dans notre ville de Bukavu, surtout dans le contexte actuel des festivités.
Rendons-nous dans les territoires de Mitouaba, dans la province du Haut-Katanga, où environ 20 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu mercredi dernier, dans l'après-midi, à 19 km de Mitouaba Centre. Les victimes étaient à bord d'un camion transportant aussi des marchandises. Elles partaient de Lubumbashi à destination de Malembankulu, dans la province du Haut-Lomami. D'autres détails avec Patrice Kishimba, élu provincial de Mitouaba, joint par Jean Gandou.
Un véhicule transportait plus de 40 tonnes de sacs de ciment en partance pour Malembankulu. Il y avait également des passagers à bord. Le chauffeur a perdu contrôle du véhicule et a connu un tonneau. Plusieurs pertes en vie humaine, de blessés ou rescapés. Certains sont internés donc à l'hôpital général de référence de Mitouaba où ils n'ont pas assez de médicaments pour la prise en charge. Des difficultés majeures d'évacuer ainsi ce rescapé, faute d'ambulance à la zone de santé de Mitouaba. Je venais de changer avec l'administration coordinateur des territoires en charge de finances, il me parle de 19 morts, dont 9 hommes, 6 femmes et 4 enfants. Sur les 4 enfants, il y a 2 filles, 2 garçons. Il y a également 8 blessés. Jusque-là, il n'y a pas d'assistance. Néanmoins, nous sommes dans le pourparler avec le dirigeant de la territoriale au niveau local et surtout avec l'exécutif du Haut-Katanga pour voir dans la mesure du possible comment faire inhumer ces victimes le plus tôt possible. La cause est les surcharges. Certains disent aussi des livresses au volant.
Notons que cet accident est le troisième qu'enregistrent ces territoires en l'espace d'un mois, rapportent les sources locales. Entre-temps, en Ituri, plus de 55 000 personnes sont affectées par les dégâts de l'inondation du lac Albert entre août et novembre 2024. Ces statistiques sont rendues publiques ce vendredi par le service provincial de la protection civile. Selon cette structure, des centaines de maisons d'habitation, des écoles et des milliers d'hectares de champs ont été détruits par les eaux du lac Albert, ce qui accentue davantage la vulnérabilité de plusieurs communautés locales. À Bounia, une correspondance de Marcel Kizabiamungu.
Les chefferies de Wagongo dans les territoires de Maagi, de Baïmabamiwaki dans les territoires de Djogo et de Walindoubindi dans les territoires du Romo sont les plus touchés par cette catastrophe naturelle. Selon les services provinciaux de la protection civile, ces inondations sont dues à la montée des eaux du lac Albert à la suite des fortes pluies qui s'abattent régulièrement dans ces zones à cette période. Conséquence, des milliers de personnes dont leurs maisons ont été détruites vivent dans des conditions déplorables, des fois sans abri. Cette situation est également à la base de la non-scolarisation des centaines d'enfants à la suite de l'envahissement de leurs écoles par les eaux du lac. Les services de la protection civile ajoutent que ces inondations ont détruit des vastes étendues de champs des paysans, ce qui a accentué davantage la famine dans la région. Ces services demandent au gouvernement et ses partenaires de procéder à l'évaluation de la situation en vue de prendre des mesures de prévention et proposer des réponses durables à ces menaces. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre aspect d'actualité, hausse vertigineuse des prix des produits agricoles à Bandundouville, dont le maïs et le manioc, surtout en cette période festive. Un sac de manioc est passé de 60 000 à 90 000 francs congolais, voire 100 000 francs, et celui de maïs, qui coûtait 120 000 francs, revient aujourd'hui à 180 000, voire 200 000 francs congolais. Une mesurette communément appelée écolo des maïs est passée de 1 200 à 2 500 francs ou 3 000 francs congolais. Selon les vendeuses de produits de première nécessité rencontrés au marché, cette flambée des prix est due à la période pluvieuse, à la dégradation des routes et à l'insécurité à Kwamout. Situation qui inquiète au plus haut niveau les ménagères. Des explications avec Irène Mbomaluzolo.
Cette hausse des prix des manioc et des maïs est observée dans tous les points de vente de la ville de Bandundu. Certaines vendeuses indiquent que cette situation est due à la rareté de ces produits causée par la dégradation des routes des dessertes agricoles, surtout en cette période pluvieuse. D'autres encore attribuent cette flambée des prix à l'insécurité causée actuellement par la milice Mobondo dans les plateaux de Bateke à Kwamout, qui souvent alimente la ville de Bandundu en ces denrées. Cette hausse des prix a un impact négatif sur les paniers de la ménagère, comme le témoigne Titi Bintou que nous avons croisé au marché central de Mampuya, situé dans la commune de Disasi. Elle se lamente en ces termes.
Vraiment, ça fait mal, ce qui est vrai. Ce même prix avec Kinshasa. En tout cas, nous souffrons aussi à Bandundu. Donc, les prix sont augmentés. Le poisson, le foufou, le maïs, le prix sont augmentés. Ça bouge le bidier à la maison. Donc, tu peux faire les provisions de 10 bicolos. Maintenant, on ne peut pas encore acheter les 10 bicolos. Comme maintenant, j'achète 2 bicolos seulement.
Il sied de noter qu'à Bandundouville, les prix de plusieurs autres produits agricoles ont également connu la majoration, entre autres les arachides, les légumes et autres. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Nord Kivu pour parler de l'assainissement. La mairie de Goma s'implique activement dans les activités d'assainissement et de gestion des immondices pour lutter contre l'insalubrité dans la ville. En collaboration avec ses partenaires privés, le service d'assainissement de la mairie coordonne des travaux réguliers de balayage, de curage des caniveaux et transformation des déchets. Le responsable du dit service reconnaît des efforts consentis jusqu'ici, mais il évoque parmi les défis majeurs l'insuffisance des décharges publiques mais aussi les moyens financiers pour mener efficacement ce travail. Sifa Maguru nous appelle de Goma.
D'après Maître Georges Moutachi, coordonnateur du service d'assainissement de la ville de Goma, la mairie travaille avec plusieurs organisations locales du domaine réunies en plateforme. Il cite comme exemple l'entreprise A3 qui s'occupe du vidage des toilettes publiques en transformant cette matière en savon notamment. Il y a également l'entreprise Kunafazi qui organise les ramassages de bouteilles plastiques et autres immondices pour les recycler en pavés ou en engrais et bien d'autres. Comme défi majeur, Grégoire Moutachi parle de l'accroissement de la ville de Goma avec la présence des milliers de déplacés de guerre. Les deux dépotoirs publics dont disposait la ville peu avant ne sont plus accessibles. C'est notamment au quartier Mugunga qui héberge actuellement des camps de déplacés mais aussi la zone de Kilimanyoka qui est actuellement une zone opérationnelle et difficile d'accès, précise-t-il. Autre défi évoqué, l'insuffisance des engins appropriés et les moyens pour assainir efficacement la ville. Goma Sifamagoro, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le retrait des troupes françaises du Tchad se poursuit avec le départ des 120 soldats qui ont décollé ce vendredi à midi de l'aéroport militaire d'N'Djamena à destination de la France, a annoncé le ministère tchadien des armées dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Ce premier mouvement des soldats, 10 jours après le départ des avions de chasse français, fait suite à la décision de ces pays du Sahel de mettre fin à 60 ans de coopération militaire en rompant les accords qui les liaient à la France depuis la fin de la colonisation.
L'invité.
Pour qu'aucune femme ne meure plus en donnant la vie. C'est un ouvrage publié le week-end dernier à Cabinda, dans la province de Lomami. Son auteur, Dr. Rehoboth Nsaka Malangu, est coordonnateur provincial du programme de santé de la reproduction. Dans son ouvrage, il évoque les causes, les statistiques ainsi que les pistes de solutions pour réduire la mortalité maternelle lors des accouchements. Dr. Rehoboth Nsaka s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Rehoboth Nsaka Malangu. Pourquoi avoir publié un livre intitulé « Pour qu'aucune femme ne meure plus en donnant la vie à l'Omami » ?
Merci pour votre préoccupation. Nous avons publié cet ouvrage pour alerter l'opinion provinciale, nationale et internationale sur cette forme de tragédie qu'est le décès maternel. La vision nationale du programme de santé de la reproduction ne cesse de marteler en disant aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant vie, surtout des causes évitables. Ici, j'ai voulu qu'on parle spécifiquement de cette catégorie de femmes qui décèdent, pas parce qu'elles sont seulement femmes, mais parce qu'elles ont voulu donner une autre vie. Alors, c'est principalement ça la raison.
Quelle corrélation établissez-vous entre l'agriculture, principale source des revenus des ménages à l'Omami, soit 91,3%, et les femmes qui meurent en donnant vie à l'Omami?
50% des femmes qui décèdent en donnant vie à l'Omami ont comme principale occupation l'agriculture. Et cette agriculture les amène à aller loin dans des colonies de champs ou dans des villages éloignés qui ne sont pas couverts par des services de santé maternelle. Elles sont exposées juste parce qu'elles exercent ça comme profession et aussi ils habitent des endroits inaccessibles aux services de soins.
Y a-t-il un lien entre l'éducation et les femmes qui meurent en donnant vie à l'Omami?
Les résultats de notre étude sur notre recherche de 5 ans, nous l'avons menée sur un total de 295 femmes décédées en donnant vie, dont nous avons reçu leur revue donc systématique. Alors, cette étude révèle que 33,9% des femmes qui meurent en donnant vie à l'Omami, soit environ une défunte sur trois, n'ont jamais fréquenté l'école. Elles ne savent ni lire ni écrire. Tandis que 25%, un dixième, n'ont fréquenté que l'école primaire. Sur les 295 femmes décédées en donnant vie là, on n'a pu trouver qu'une seule femme universitaire, mais parce que aussi, quand on a étudié, on perçoit beaucoup plus vite l'importance d'utiliser les services de santé et de prendre soin de sa vie. C'est que même actuellement, les efforts doivent être fournis en termes d'accessibilité des filles à l'éducation. C'est pourquoi dans notre livre, parmi les pistes de solutions, par exemple, nous proposons que, bien sûr, l'enseignement primaire, la gratuité est assurée par le projet PERSA. Alors, nous proposons par exemple que même pour l'enseignement secondaire, on pouvait réduire même de moitié les frais de scolarité pour les filles.
Docteur, votre ouvrage démontre que les hémorragies obstétricales tuent 60% des femmes, soit 2 femmes sur 3 meurent en donnant vie à l'omami. Parmi elles, 3 cas d'hémorragie obstétricale sur 4 sont des hémorragies du postpartum. Quelle solution préconisez-vous pour arrêter cela?
Ici, on a d'abord identifié un problème lié aux compétences des prestataires qui dirigent les accouchements. Je voulais épingler particulièrement le fait que aujourd'hui à l'Omami, il y a environ 600 matrons qui continuent à diriger les accouchements. Nous préconisons d'abord de se réaffecter à la sensibilisation des femmes visiblement enceintes à venir chez ou utiliser les services de santé maternelle infantile. Autre chose que nous préconisons, il y a une approche qui s'est avérée très concluante, c'est le mentorat clinique petite dose haute fréquence. Une approche où on ouvre au sein des maternités un centre d'apprentissage continu et des répétitions de ces compétences critiques qui sauvent les vies.
Docteur Eobot Saka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Notre invité répond aux questions d'Esther Ndalafina. Par ici s'achève ce journal mis en onde par Billy Landry Bitou, coordonné par Jacques-Yves Moulima et supervisé par Alain Rong. La présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci pour votre attention.